Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h55 en direct avec toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir Babette.
Mohamed, votre story du jour.
Une première depuis près de 20 ans et la deuxième fois seulement dans l'histoire, la diplomatie française qui est en grève aujourd'hui partout dans le monde. Des diplomates dans toutes les ambassades françaises qui manifestent contre la réforme de la haute fonction publique voulue par Emmanuel Macron. Vous saurez tout dans la story.
Avec des diplomates qui vous...
On partira à Pékin avec des diplomates, il y en aura partout.
Ah oui, on va aller très loin. Patrick, partout. Votre choix de l'actu du jour.
Si je vous fais ce geste...
Oui, vous êtes en train de resserrer une ampoule, oui.
Presque.
Vous vous croyez à Buckingham Palace?
Exactement, sur le balcon du château de Windsor. Journée exceptionnelle en Grande-Bretagne et c'est le début d'un grand jubilé qui a des échos aussi à Paris, on va en parler.
Et on va en parler longuement, notamment avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue, qui alors là mobilisée depuis ce matin.
Ah oui, on a commencé très tôt et on n'a pas fini, mais on adore quand c'est comme ça. Ben un voilà. Peu d'actu.
Un peu d'actu, 4 jours d'actualité, ah oui, 2 milliards de téléspectateurs pour suivre le lancement de ce jubilé de la reine Elisabeth II. Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Vous avez peut-être commencé à réserver des colonies de vacances pour vos enfants cet été. On manque de moniteurs, pas seulement de moniteurs, même de cuisiniers. On manque en fait de gens aussi formés au BAFA pour accompagner. Certaines colonies pourraient même être annulées, on va en parler.
Vous êtes volontaire, Mathieu?
J'ai pas mon BAFA, vous l'avez?
Non plus, mais il est toujours temps. Il n'est jamais trop tard, Mathieu. Et Pierre, dans votre œil ce soir?
Si je vous fais ça, vous pensez à quoi?
Jubilé. Bassine.
On va fêter le 20e anniversaire du premier album de Norah Jones.
Ah, tiens.
Et son fameux titre mythique, Come Away With Me.
Ah,
oh. Voilà.
Magnifique. Voilà pour l'œil de Pierre et pour un dîner champagne ce soir, puisqu'on reçoit Nicolas Vanier, dont le film Champagne sort mercredi prochain au cinéma, avec une pléiade d'actrices et d'acteurs, Elsa Zilberstein notamment, qui sera également à ses côtés. Et puis on a le plaisir de recevoir l'humoriste Marina Rollman, surdouée et irrésistible.
Quel talent!
Voilà pour nos invités du dîner préparé ce soir par Patrice Geoffroy, qui est chef étoilé, mais qui est surtout le président de l'association Les Bouffons de la Cuisine. On vous parlait de l'action de cette association dès hier déjà, mais Patrice en est le président. Bonsoir, chef.
Bonsoir, merci de me recevoir pour parler des Bouffons de la Cuisine.
On en parlera de cette association qui est essentielle, mais au menu ce soir...
Artichaut de Bretagne, araignée de Bretagne, fraises de Bretagne... Et noix de coco, qui pas de Bretagne.
Alors là, si vous m'aviez annoncé que la noix de coco était bretonne, alors là, on passait en spécial. Mais ce n'est pas le cas. À tout à l'heure, chef, et merci pour ce dîner. C'est à 12h20, London Time, qu'Elisabeth II est apparue au balcon de Buckingham Palace. C'est l'image qu'attendaient tous les Britanniques. Image diffusée dans le monde entier, je le disais tout à l'heure, 2 milliards de spectateurs. Les célébrations marquant les 70 ans du règne de la reine d'Angleterre ont donc débuté ce matin. 4 jours de fête pour une femme hors du commun.
Numbers 1 to 5 guards well advanced. About turn.
Adélaïde, c'est l'image qu'on retient de cette journée. Hein. C'est Elisabeth II au balcon de Buckingham Palace pour saluer les participants du défilé militaire annuel du Salut des couleurs, Trooping the Colour.
Bravo.
Voilà.
Tout à fait.
96 ans. qui marche, cette femme qui marche jusqu'à ce balcon, c'était aussi un symbole très attendu par les Britanniques en particulier.
Oui, c'était très attendu parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur sa santé, parce qu'on n'était pas sûr de à quel point elle pourrait participer. Elle a annulé beaucoup d'engagements ces derniers temps, notamment pour se préserver et pour être là aujourd'hui. Et on l'a vu franchement en forme. Elle marche tout à fait correctement. Elle était très contente d'être là. Et il y a quelque chose d'assez émouvant parce qu'en fait, la première fois où elle salue au balcon, elle a 9 ans. C'est pour les 25 ans de règne de son grand-père. Entre-temps, au balcon, il y a eu le baiser de Charles et Diana. Il y a eu celui de Kate et William. Il y a eu 6 jubilés avant celui-là. Donc, on traverse le temps à partir du balcon de Buckingham.
Il a une valeur extrêmement symbolique dans la monarchie britannique, ce balcon.
Oui, oui, vraiment, c'est là que tous les grands événements familiaux se scellent. Et là, elle bat un record qui est inouï, qu'on reverra sans doute jamais, soyons honnêtes. Un souverain qui atteint 70 ans de règne. Bientôt, elle va battre Louis XIV si elle est sur sa lancée.
Elle a battu la reine Victoria déjà.
Elle a largement battu Victoria à plate couture, parce que Victoria, c'était 63 ans.
Ah oui.
Louis XIV, il lui reste un an et demi, mais Louis XIV, il a été roi à 5 ans. Donc, il a un peu triché.
Il a un peu triché.
Et honnêtement, c'est sans précédent. Ça n'existe pas.
On aura remarqué quand même la pudeur de la BBC qui n'a pas filmé l'intégralité de l'avancée de la reine sur le balcon. C'est-à-dire qu'on a vu les portes s'ouvrir et puis il y a eu un plan sur la foule et ensuite on a vu elle était quasiment arrivée. Donc il y avait de la pudeur aussi du côté de la BBC.
Vous avez vraiment raison, c'est la chose qu'elle ne veut pas, c'est se montrer affaiblie. Déjà la canne, elle a eu du mal, mais elle l'a fait. Elle est restée très marquée en fait par sa sœur qui, à la fin de sa vie, Margaret, était en fauteuil roulant. Et pour elle, ça a été vraiment un peu la fin d'un mythe et elle ne veut pas envoyer cette image-là aux Anglais. Donc elle préfère annuler plutôt que de se montrer en fauteuil roulant ou affaiblie.
Elle n'était pas seule, la reine Elisabeth, dans un premier temps sur ce balcon. Elle est apparue avec le duc de Kent. Ce n'est pas toujours simple, vu de France, de s'y retrouver dans la famille royale.
C'est vrai.
Je suis incapable, je n'ai pas joué les malins, de savoir quel est sans doute ce...
C'est la question que l'on se posait.
Voilà,
oui, oui.
Je suis incapable de vous éclairer sur le sujet.
La reine Elisabeth, qui apparaît contre toute attente, il est 13h21,
avec son
au balcon du palais de Buckingham.
Avec
regardez
son cousin.
Cette image.
Elle apparaît avec le duc de Kent.
Avec son cousin, donc comme je disais un peu plus tôt, le duc de Kent.
Ça doit être le duc de Kent, son cousin qui est avec elle. Oui, c'est le duc de Kent.
Le duc de Kent, cousin germain de la reine.
Ce qui me fait plaisir, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un dit que c'est le duc de Kent, parce que c'est le duc de Kent, c'est un journaliste de point de vue. J'ai reconnu toutes les voix. Donc merci pour cette petite revue.
Il y avait Stéphane Bern aussi.
Absolument. Et le duc de Kent, c'est effectivement le cousin germain de la reine. Et depuis que le prince Philippe est mort, souvent il lui sert des escorte pour pas qu'elle soit seule et c'est assez touchant d'ailleurs parce que il a 10 ans de moins qu'elle mais il a pas l'air beaucoup plus solide sur ses jambes et finalement c'est plus elle qui le soutenait que l'inverse.
Mais c'est la première grande cérémonie où Philippe d'Édimbourg n'est pas là.
Oui, et il y a eu un vrai moment d'émotion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment, le prince Charles a visiblement eu le visage très, très ému, très tendu, parce qu'elle elle a ce courage incroyable, la reine Elisabeth, mais c'est vrai que c'est la toute première célébration sans son mari. Et puis on sait aussi, même si la presse est très pudique, là encore, notamment la presse anglaise, que c'est a priori son dernier jubilé. Dans 10 ans, est-ce qu'elle sera encore là? Est-ce qu'elle sera encore au balcon? Voilà, donc il y a une émotion particulière, les adieux se mêlent à la joie et en même temps c'est un moment de retrouvailles. Rappelez-vous son grand discours pendant le confinement où elle avait fait appel à cet esprit de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le dernier chef d'État qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, où elle dit « We will meet again ». Elle fait appel à cette chanson qui avait donné beaucoup d'espoir aux Britanniques. Elle avait dit « Un jour on va se retrouver, cette pandémie se terminera » et là véritablement une famille se retrouve, Harry et Meghan sont là. Et une nation se retrouve.
Ils sont là, mais ils n'étaient évidemment pas sur le balcon de Buckingham Palace, mais ils assistaient à la cérémonie dans un autre bâtiment.
Oui, ils étaient là, on a des photos d'eux jouant avec les enfants, mais ils n'étaient pas face à la foule pour une bonne raison, ça, ils ont été assez malins là-dessus dans l'organisation royale, c'est que tous ceux qui ne sont pas des membres actifs de la famille royale n'étaient pas là, ce qui permettait à la fois de régler le problème Sussex et en même temps de régler le problème Andrew, qui est encore plus compliqué
qui
à gérer.
Qui est mêlé à l'affaire Epstein.
Voilà, qui là, franchement, c'était pas possible qu'il soit au balcon.
Et pourquoi la reine a été accompagnée du duc de Kent et non pas du prince Charles? Charles, par exemple, du prince de Galles.
Parce que le prince Charles était son remplaçant, et c'est là où on voit la montée en puissance du prince Charles pour le Trooping the Colour. C'est lui qui a passé en revue les troupes. Il était à cheval avec la princesse Anne, donc la fille de la reine Elisabeth, sa sœur, à cheval avec le duc de Cambridge, William. Et donc, le temps qu'il arrive, c'était plus logique qu'elle soit accompagnée. Voilà.
Monter en puissance.
Et il a fait l'ouverture du Parlement.
Oui, oui, je sais bien. Mais enfin, il a plus de 73 ans.
Ça ne va pas être un règne qui va durer 70 ans. Je suis d'accord. Il y a très peu de probabilités statistiques qu'il y arrive. Mais en tout cas, elle met tout son poids dans la balance, la reine Elisabeth, pour lui passer la main. Il a fait l'ouverture du Parlement. Il s'occupe maintenant des relations avec le Commonwealth et les voyages extérieurs en grande partie. Il passe en revue les troupes qui sont des moments régaliens extrêmement importants, donc le symbole est assez fort.
On a rappelé l'immense popularité de la reine. D'ailleurs, il y avait une ferveur extraordinaire au moment de cette apparition sur le balcon de Buckingham. Extrêmement populaire, beaucoup plus que le prince Charles.
Beaucoup plus que le prince Charles, c'est toute la difficulté. Les derniers sondages la mettent entre 82 et 92% d'opinion favorable. C'est absolument énorme. Après 70 ans de règne, nous, après un mandat, déjà, on a beaucoup de mal à supporter nos présidents. Là, elle fait une vraie performance. Et le prince Charles, c'est beaucoup moins. C'est de l'ordre de 48%. Il remonte. Il a eu un gros coup sur la casquette avec la dernière saison de The Crown. Ça a été terrible. Pour lui, ça a été dévastateur, parce que ça a rappelé à tous ceux qui ne connaissaient pas l'histoire qu'il a été tellement méchant avec Lady Di, ce qui serait à nuancer. Et il a dévissé de 18 points dans les sondages.
En tout cas, jaloux de la popularité de la princesse de Galles.
C'était pas si clair. Ouais. C'était pas si clair. Ils ont un peu charrié The Crown.
Une fois arrivé au trône, est-ce qu'il va pouvoir changer quelque chose au style de la monarchie britannique ?
Il a beaucoup d'idées sur la question. Ça fait tellement longtemps qu'il se prépare, qu'il prépare ses dossiers. Et puis, il y avait eu le fameux scandale, je ne sais pas si vous vous souvenez, des Spider Memos. Parce que c'est quelqu'un qui, contrairement à la reine, a beaucoup d'idées sur la société, sur l'architecture, sur l'écologie, sur le futur. Donc, il envoyait un peu trop d'avis personnels aux différents gouvernements. Il a été vraiment un peu battu froid pour ça. Il a compris maintenant qu'à partir du moment où il serait roi, il ne pourrait plus du tout exprimer ce genre d'opinion personnelle. Mais c'est sûr que ce règne ne va pas pouvoir être aussi glorieux que celui de sa mère. Mais c'est toute la force de l'institution monarchique, c'est que des grands souverains succèdent à des souverains moins flamboyants, mais ça continue.
Et en même temps, c'est extraordinaire, il attend 50 ans, et une fois qu'il est enfin roi, tu donnes plus ton avis.
C'est oui, c'est vrai.
Mais c'est une vraie violence pour un individu de comprends. Jamais pouvoir dire ce qu'il pense. Je trouve ça terrible.
Ce que la reine Elisabeth a accepté.
Oui, et ce qu'elle fait admirablement. Mais honnêtement, nous, regardez le nombre d'opinions qu'on vient de proférer en l'espace de 10 minutes, on serait très très malheureux si on ne pouvait pas dire ce qu'on pense.
Ah oui, oui, hier, parmi les spécialistes qui étaient là, il y en avait deux qui n'étaient pas d'accord sur ce que pense la reine du Brexit.
Ah, et du Brexit.
Et du Brexit.
Mais ça, honnêtement, alors il y a ceux qui disent qu'elle a mis son fameux chapeau, mais ça a été démenti, ça a été très clairement démenti par son habilleuse.
Le chapeau aux couleurs de l'Europe.
Oui, elle était apparue avec ce chapeau très emblématique, bleu, avec des petites fleurs jaunes. Et tout le monde a dit, ça y est, elle est anti-Brexit, c'est un soutien à l'Europe. Honnêtement, pas du tout. Et elle est trop capée, elle a trop d'expérience.
Pour se fourvoyer comme ça.
Oui, dans ce genre de message compliqué.
En tout cas, on peut être sûr qu'aucun Britannique n'échappera à l'événement, si tant est que quelqu'un ait voulu le faire, puisque le prince Charles et son épouse Camilla vont faire ce soir une apparition à la BBC dans EastEnders, le feuilleton le plus populaire de la télévision publique depuis 1985. En mars dernier, ils sont venus sur le tournage tous deux. Ils ont tourné quelques scènes en jouant cette fois leur premier rôle. Ils ne faisaient pas les halbardiers. Voilà ce que vont voir les Anglais, les habitants de ce quartier fictif de l'Est de Londres qui reçoivent une visite royale.
Welcome, Your Royal
Highness. How are you?
I am
How
very...
Well, more... You've got a nice little bottle there.
Yes. It's rum, especially from Trinidad.
Fantastic.
Yes, and as they say, a drop a day keeps the doctor away.
So, I've tried that in Trinidad.
You've tried it in Trinidad?
Pretty good.
And you're still standing, Mum.
If you want to take any with you for the journey...
Pour être complet, la reine avait déjà visité ses studios en 2001, mais évidemment, elle n'a pas joué. En tout cas, cette participation à une série populaire, c'est aussi le signe que ce couple veut apporter quelque chose le jour venu.
Oui, alors d'abord, ils ont quand même beaucoup d'humour, ces deux-là. On les voit régulièrement avoir des fous rires ensemble. Ils sont vraiment prêts à jouer le jeu. Et il y a un hommage aussi, parce que cette série, EastEnders, c'est la grande série favorite de la reine Elisabeth. Elle la regarde depuis des décennies. Donc, il y a une mise en abîme, en fait, de les faire jouer pour le jubilé de la reine. Et elle a d'autres passions comme ça aussi. On sait, que, par exemple, qu'elle avait fait modifier l'intégralité de son agenda pour voir le dernier épisode de Downton Abbey. C'était très, très important pour elle. Donc, voilà, elle est parfois plus rigolote qu'on le croit, la reine.
J'enchaîne sur les grosses pounds, les gros sous. Ce jubilé est aussi une affaire commerciale. Une chaîne de magasins a mis en vente carrément une ligne de vêtements spécial jubilé. Les marques de luxe prévoient des produits spéciaux. Vous avez suivi tout ça, mais je ne rentre pas dans tous les détails. Mais la reine doit aussi faire tourner l'économie britannique, comme l'a raconté la télévision canadienne.
Stuart Morris is rolling hundreds of thousands of souvenir tea towels off his printing machines. This single order from the Daily Mail newspaper for its readers is worth 80,000 pounds. Along with all the tea towels, people are expected to snap up some 6 million coffee mugs, more than 10 million British flags, and up to 3 million items of stationery and pens.
It seems to get bigger every 10 years, so let's hope there'll be another one.
On peut dire que ce jubilé, c'est une extraordinaire campagne de publicité mondiale pour le royaume
et l'empire. Et même avec les quantités qu'ils viennent d'évoquer, pendant quasiment 2 jours, la boutique a été en rupture de stock. Ils n'ont pas pu alimenter tellement la demande a explosé. Donc ce sont des millions de livres sterling. Et puis c'est aussi quelque chose d'autre, c'est qu'on sait que la situation en ce moment en Grande-Bretagne est tout sauf facile. L'explosion de l'inflation est encore plus importante que chez nous. Boris Johnson, il est quand même un peu sur la sellette. Et la magie du jubilé, tout le monde pense mug et petite figurine et on oublie les choses qui fâchent.
Qui paye d'ailleurs pour ce jubilé? Ce sont les contribuables britanniques?
Mais en fait, non, parce que ce qui est très intéressant, c'est que la famille royale est une énorme machine commerciale.
Et donc elle s'autofinance
en quelque sorte. Elle s'autofinance totalement. Alors la
une
sécurité.
Notation.
Oui,
il y a une dotation du budget.
Oui, mais si vous regardez la dotation, en fait... Oui, mais en fait, la dotation, ça a été un accord qui a été fait en échange des revenus des propriétés royales qui ont été confiées à la couronne. Donc, il y a eu une sorte de pacte qui est passé qui fait que si, historiquement, on inclut en plus ces propriétés de la couronne, ça coûte quasiment rien aux contribuables. On évalue au prix d'un timbre par contribuable le prix de la monarchie britannique par an. Donc, ça reste... raisonnable. Je pense que quand on regarde notre feuille d'impôt, nous, ça nous inspire quand même.
Donc c'est que le premier jour des 4 jours de festivité. Demain, à l'agenda, il y a l'anniversaire de la petite Lilibet, la fille du prince Harry et de Meghan. Et c'est l'occasion, la première occasion, elle va pouvoir rencontrer sa...
Elle n'a jamais vu Lilibet, c'est ça qui est absolument...
Son arrière-grand-mère, pardon.
Son arrière-grand-mère. Donc cette petite fille qui va fêter ses 1 an samedi n'a jamais rencontré la reine. Et pareil, Archie, le charmant petit Archie qu'on voit là avec sa petite figure rousse comme son papa, il n'a plus vu la reine depuis son départ de l'Angleterre. Donc c'est vrai que c'est un moment aussi de vraie réunion familiale. On sait qu'il y a eu des terribles fractures dans cette famille, tout comme il y a eu des terribles fractures dans le pays. Donc c'est vraiment le rôle de la reine Elisabeth, c'est d'être le trait d'union, en fait.
Ce sera médiatisé ou ça restera à l'abri des regards?
Alors, honnêtement, 2 options. La première option, c'est que normalement, ils ne sont pas censés se mettre en avant pendant le jubilé. Elle est le centre de l'attention pendant ces 4 jours, et c'est sûr que si tout d'un coup, on commence à avoir des photos des enfants qu'ils ont jalousement quand même cachés depuis des mois, ça risque d'exclure un peu la reine Elisabeth. Après, il est possible aussi, parce que c'est quand même une communication très intelligente, qu'elle décide au contraire de montrer la réunion familiale, la pacification des clans. Donc ça, franchement, ce sera son arbitrage et je suis moi-même assez curieuse de voir de quel côté ça va pencher.
Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Vous restez avec nous parce qu'il y a d'autres sujets d'actualité. Peu, hein. mais la Terre continue à tourner. Alors c'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Un mouvement de grève assez inédit.
Oui, comme promis, regardez ces images à Pékin, des images rares, des hauts fonctionnaires qui protestent contre la diplomatie en extinction. C'est seulement leur deuxième grève de l'histoire, la première fois depuis près de 20 ans que les diplomates s'arrêtent. C'est ce décret publié au journal officiel qui a mis le feu aux poudres, la suppression du corps diplomatique qui entrera en vigueur en janvier prochain à Paris. Ils étaient plusieurs centaines à se rassembler devant le Quai d'Orsay ce matin, comme vous le voyez sur ces images d'Iban Raïs et Anaïs Recouli. Ils manifestent contre un affaiblissement de la diplomatie française.
Le risque, c'est d'abord de perdre notre place dans des enceintes internationales qu'on voit aujourd'hui être utiles aussi pour des gestions de crise, l'ONU, l'OTAN. On a un réseau qui est le troisième plus grand du monde, alors que par rapport à la taille de nombre de fonctionnaires qu'on a, on va dire que c'est une prouesse. Donc le risque d'une diplomatie affaiblie, c'est de perdre cette place à l'international et puis aussi sur les affaires consulaires, d'avoir des services publics rendus à nos concitoyens qui vivent à l'étranger, qui seraient de moindre qualité. C'est aussi une ressource de la France d'avoir des fonctionnaires bien formés pour faire de la diplomatie et faire rayonner la France à l'étranger.
C'est Emmanuel Macron qui a voulu cette réforme de la fonction publique pour supprimer les castes administratives. Les diplomates, eux, considèrent qu'elle met en danger l'efficacité et le prestige de la diplomatie française. Avec ce décret, les hauts fonctionnaires travaillant dans les ambassades ne viendront plus forcément du ministère des Affaires étrangères. Ils seront donc dans le même corps de métier que les préfets ou les sous-préfets. Avec plus de 800 hauts fonctionnaires, la France est le troisième réseau diplomatique dans le monde, derrière les États-Unis et la Chine. Pour certains diplomates, ce troisième rang mondial ne peut se conserver qu'avec de grands moyens.
Le ministère, c'est aussi un service public qui est à l'attention de tous nos compatriotes qui vivent à l'étranger. C'est un service public qui ne fonctionne que par le dévouement de ses agents, qui sont prêts de nuit ou le week-end à aller sortir un Français de tôle ou aller le voir à l'hôpital, organiser son évacuation sanitaire. Que ça demande des compétences. Et que ça demande des moyens, et qu'on le fait sourire aux lèvres jusqu'à maintenant, mais on en a marre, on n'en peut plus. Il nous faut des moyens, des effectifs.
C'est la jeune génération de diplomates au Quai d'Orsay qui mène principalement la fronde. Ils s'inquiètent d'être contraints de quitter la diplomatie pour poursuivre leur carrière. Des personnalités importantes de la diplomatie française, comme l'ancien ambassadeur aux États-Unis et à l'ONU, Gérard Araud, craignent la généralisation en France de nominations politiques, à l'instar de la pratique américaine.
Moi, je ne me fais pas d'illusions. Les postes au Burundi, personne ne les disputera. C'est-à-dire que les jeunes gens qui veulent partir en Afrique continueront d'avoir leur poste. Le risque, c'est tout simplement, évidemment, que tous les jeunes gens de la haute administration vont dire « Tiens, j'irai bien faire un petit séjour à New York. Ah ben tiens, j'irai à Rome. » Et donc, on va voir, en gros, les vrais diplomates rejetés sur les postes les plus difficiles et d'un seul coup se trouver en concurrence sur les postes les plus faciles. Et enfin, au niveau des ambassades, il y a le risque évident qu'on soit américanisé, c'est-à-dire que les ambassades chics ou les ambassades faciles, eh bien, on y casse des copains, que le Quai d'Orsay, ça devienne comme les abbayes de l'Ancien Régime.
Alors, nous avons tenté de joindre le Quai d'Orsay il y a quelques heures. Nous n'avons pas eu de réponse pour l'instant, puisque le Quai d'Orsay va publier un communiqué dans les prochaines minutes sur le site du ministère des Affaires étrangères sur cette grève qui a eu lieu aujourd'hui dans toutes les ambassades et consuls dans le monde de France.
Merci beaucoup, Mohamed. C'est un procès qui aura tenu l'Amérique et une partie du monde entier en haleine pendant 6 semaines. Un affrontement sans pitié à coups d'accusations toxiques, de déballages intimes et de vidéos sordides. Et un verdict hier après 13 heures de délibération. L'actrice Amber Heard a été reconnue coupable d'avoir diffamé son ex-compagnon Johnny Depp en se décrivant comme victime de violences conjugales.
Do you find that Mr. Depp has proven by clear and convincing evidence that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes.
Today's verdict confirms what we have said from the beginning, that the claims against Johnny Depp are defamatory and unsupported by any evidence. We are grateful, so grateful to the jury.
Bonsoir François Lurper, historien spécialiste des États-Unis, à vos côtés Yves Jéglé, journaliste au service culture du Parisien. Merci à tous les deux de votre présence. Comment l'acteur a sauvé sa peau? C'est le titre de votre article paru dans le Parisien, Yves. Et c'est bien cela dont il s'agissait, d'un combat à mort entre deux ex-époux et compagnons?
Bah, ils jouaient très gros tous les deux. Lui, beaucoup pour sa carrière, même si elle était quand même un petit peu en déclin. Mais vu que c'est lui qui a intenté ce procès en diffamation, s'il l'avait perdu, ça aurait été un éclat immense. Et pour elle, c'est plus une question d'image, même si elle est quand même actrice et que là, des tas de gens demandent qu'elle soit coupée au montage de Aquaman 2. Enfin, c'est complètement fou, en fait, ce qui se joue, selon moi.
Ouais. Il faut rappeler le point de départ. C'est une tribune qu'avait signée Amber Heard, dans laquelle elle ne nommait pas explicitement Johnny Depp. Elle parlait de violence subie dans son foyer. Johnny Depp a estimé que cette tribune avait détruit sa carrière. Effectivement, sa carrière a été largement... il a arrêté de tourner, pratiquement.
Bah, il a arrêté de tourner vers 2019. Alors, il a quand même tourné beaucoup moins de films dans les années 2010, hein, à part Pirates des Carrés, puis il a eu des échecs. C'est sûr que ça lui a fait beaucoup de tort. Ce qui peut surprendre, c'est qu'il a déjà intenté un procès en diffamation au Sun, en Angleterre, exactement pour les mêmes raisons.
Et il a perdu.
C'était le journal, alors ouais. mais qui reprenait des propos inspirés par Amber Heard. Il l'a perdu, ouais. Alors c'était beaucoup plus méchant, puisqu'il était nommé directement comme un frappeur de femmes, je crois. Il a perdu complètement. Et là, en gros, pour les mêmes propos...
Il est relaxé.
Elle lui doit, au final, si j'ai bien compris, environ 10 millions de dollars qu'elle n'a pas du tout. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est plutôt la manière dont beaucoup de gens, en fait, ont parlé de ce procès depuis 6 semaines. Parce qu'au final, alors il y a des gens qui pensent savoir ce qui s'est passé. En fait, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé entre eux précisément. Mais elle a été immédiatement décrite comme l'hystérique, la
méchante. Elle a été diabolisée par...
La menteuse. Bah, sur Twitter, hier soir, il y avait des bisous sorcières. Très, très... Alors, effectivement, ça fait rire. Mais c'est, moi, je pensais qu'on ne parlait plus comme ça. De ces histoires-là, en fait. Quoi qu'on en pense, peut-être qu'elle a menti, peut-être qu'il a menti, peut-être qu'ils ont tous les deux menti, ça, on ne le sait pas.
Vous pensez que MeToo avait changé quelque chose dans la façon dont était reçue la parole des femmes ?
Oui, surtout, j'ai un petit peu suivi pour mes papiers ce qui s'écrivait, ce qui se faisait, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans les journaux, enfin sur les sites internet des journaux, et aussi dans les talk-shows, pas le vôtre, mais j'ai vu des choses où on voit des gens ricaner assez méchamment sur Amber Heard. Alors, jamais sur Johnny Depp. On voit quand même qu'il y a toujours un pouvoir de l'idole. Moi aussi, j'admire Johnny Depp. Elle n'a pas du tout la même carrière, évidemment. Mais je trouve qu'il y a un gros retour en arrière dans cette manière de parler très légèrement et en même temps très méchamment d'une femme qui, effectivement, attaque un homme, mais sur un fond qu'on connaît, au fond, assez mal.
Il y a plus de tolérance pour un homme qui dérape, qui est dans l'excès comme Johnny Depp pour l'alcool, pour la drogue, pour les scènes qui ont été décrites lors du procès, que pour une femme qui commet aussi, qui a ses propres excès. C'est ça, au fond, ce que vous avez ressenti.
Bien sûr. Est-ce que quelqu'un a déjà dit que Johnny Depp pouvait être hystérique ? Il y a déjà eu des pétages de plomb en direct,
bien sûr.
Même dans des cérémonies de
prix. Vous avez raison.
Et pourtant, c'est pas grave. Il a bu, il est un petit peu sous substance, mais c'est Johnny Depp. Elle, immédiatement, elle a été effectivement diabolisée en n'ayant absolument aucun soutien. Et au-delà des faits, encore une fois, c'est un procès en diffamation. Donc, ce n'est même pas un procès sur le fond. Mmh. C'est un procès sur les choses qui ont été dites, pas sur les choses qui ont pu être faites. Mmh. Personne n'était dans cette villa de luxe où, de toute façon, un climat de haine a régné pendant 2 ans. C'est une histoire qui est très triste. Mmh. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle, en fait, ce traitement
médiatique. Et sur les réseaux sociaux. François Durpère, déjà, le verdict vous a étonné, parce qu'effectivement, Yves le rappelait, il avait été condamné en Grande-Bretagne, et d'habitude, la justice américaine est quand même plus sévère que la justice britannique.
Oui, c'est une grande surprise, parce qu'il y a 2 ans, effectivement, il a perdu son procès en Grande-Bretagne, et généralement, il y a un tourisme judiciaire lié à la diffamation des Américains qui vont plutôt en Angleterre pour pouvoir avoir accès à une justice qui, en matière de diffamation, est quand même plus stricte. Là, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Donc, c'est une grande surprise. Il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que c'était des jurés et pas un juge. En Grande-Bretagne, c'était un juge. Là, c'était des jurés. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. La deuxième, c'est qu'il y a une méthode utilisée par Camille Vasquez, l'avocate brillantissime de Johnny Depp, qui est la méthode Darvo, qui est la méthode bien connue des avocats américains, qui consiste à nier, attaquer, inverser la victime et l'agresseur. Ça, ça ne marche qu'avec des jurés. Ça ne marche jamais sur des juges qui sont rompus à l'exercice de l'examen de la preuve. Puis la troisième chose, elle a perdu dès le début, au moment de la transparence des débats. Les avocats de Johnny Depp ont obtenu la transparence dans une démocratie américaine où on dit la démocratie meurt dans l'ombre et elle vit dans la transparence. 330 millions d'Américains, c'est-à-dire le nombre d'Américains, ont suivi un bout du procès. Et donc des jurés qui n'étaient pas séquestrés, il faut le dire, ils rentraient chez eux, ils n'étaient pas séquestrés, ont aussi pris toute l'ambiance de l'Amérique, en fait. Hein. Alors, après, elle s'est parjurée à plusieurs reprises. Donc, en fait, l'exercice de Camille Vasquez, c'était de dire, elle s'est parjurée, à partir du moment où elle s'est parjurée, elle peut mentir. Mais c'est quand même un fiasco de sa défense. Bah, après, je dis simplement sur le plan judiciaire, je ne parle pas du procès
fiasco
devant
de la défense d'Amber Heard, et en revanche, excellente défense de l'avocate de Johnny Depp.
Le fiasco, on l'a vu quand, par exemple, elle se laisse aller à citer Kate Moss, alors qu'évidemment, ses avocats lui avaient dit de ne pas le faire. Ouais. Donc, du coup, on convoque Kate Moss, etc. Durant ce procès, Johnny Depp, lui, a montré qu'il tenait bien sa partie. Par exemple, quand il a affirmé que c'était Amber Heard qui était violente, et il a décrit calmement, lui, certaines scènes.
I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. You're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you.
Miss Heard, in her frustration and in her rage and her anger, she would strike out. She would. It could begin with a slap. I would just go and lock myself in, you know, the bathroom or anywhere that she couldn't get into.
Et en illustration de ce que vous expliquiez à l'instant, François Durper, sur la stratégie des avocats de Johnny Depp de nier, attaquer, inverser la victime et l'agresseur, on va retrouver l'efficacité de cette avocate qui a été brillantissime, la jeune Camille Vasquez. À plusieurs reprises, elle a mis sérieusement en difficulté, sans la lâcher, Amber Heard. Petit exemple.
This is the day after you obtained the domestic violence restraining order against Mr. Depp, right?
I have no idea when this image was taken. I did not take it.
There's no bruise on your face in this picture, is there?
Again, I don't know when this was taken, and also I'm outside. I was obviously wearing makeup.
And in connection with that settlement, you received $7 million from Mr. Depp, true?
That's correct.
And then you released a statement in which you claimed you would be donating the entire $7 million to charity, right?
That's correct.
You have not donated the $7 million donated. Not pledged, donated.
That's how donations are paid.
Ms. Heard, respectfully, that's not my question.
I was testifying that I know that that's what Officer Sions said, that she didn't consider my red puffy face injured.
Red puffy face, that was your counsel's question, correct?
That was she her said, testimony in the UK.
That's incorrect, and you know that, Ms. Heard.
I disagree.
Mais vous serez d'accord tous les deux que ce sont ces mensonges répétés, parce qu'il y en a eu un certain nombre, et révélés, qui ont été fatales vis-à-vis des jurés et vis-à-vis du public.
Mais même si Camille Vasquez est très douée, en fait, prouver qu'elle est une menteuse, prouver qu'elle a agressé, prouver qu'elle a frappé Johnny Depp ne change rien au fond de l'affaire. C'est une affaire en diffamation.
Oui, c'est ce que
ça veut dire qu'il n'y a pas...
Mais
n'y a
si,
pas...
si, 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 si. Dans la diffamation, en France, en tout cas, la bonne foi, c'est essentiel.
Un juge... condamne en diffamant. Là, en fait, ce sont des jurés. Ça ne peut marcher qu'auprès de gens qui se disent elle ment constamment, donc elle peut mentir tout le temps. Sauf qu'en fait, il y a 12 actions distinctes de violence qui ont été déterminées par le juge britannique. Ces 12 actions, il suffisait des avocats, je ne suis pas avocat, mais il suffisait des avocats américains reprennent les 12 actions pour dire à quel moment il y a diffamation. Il n'y a pas diffamation. C'est tout.
Mais c'est très américain, parce que moi, ce qui m'a beaucoup choqué, il la coince là sur cette histoire des 7 millions qu'elle a touchés au moment de son divorce, c'est pas du tout le sujet.
Ouais.
Qu'elle les ait donnés ou pas. C'est pas de ça dont on parle. On parle d'une violence qui a eu lieu ou pas. Et là, c'est très frappant, les exemples. Il suffit d'entendre la voix de Johnny Depp, ça nous parle à tous. Depuis notre enfance, depuis qu'on est jeune, il a une voix extraordinaire. Elle, c'est une petite actrice, elle est déjà battue. Moi, c'est ce que je trouve terrible.
C'est-à-dire qu'on n'a pas dissocié l'acteur, la légende d'Hollywood, de l'homme là qui était...
Mais surtout, ce qui est pire, c'est que, comme disait François, les jurés avaient même accès, non seulement le soir, mais ils avaient accès pendant le procès. On ne leur a pas enlevé leur téléphone. Mmh. C'était diffusé. Ils pouvaient suivre tout ce qu'ils disaient sur les réseaux sociaux. Mmh. C'était une sorte de cirque.
De cirque.
Qui est très choquant.
Multiplié, évidemment, par le fait que ce procès était retransmis. Ouais. En direct, 6 semaines, vous l'avez rappelé, Yves, pendant lesquelles le couple s'est livré à un grand déballage. Aucun détail sordide n'a été éludé. Il y a eu des dizaines d'heures de témoignages, d'enregistrements audio, vidéo. Et certaines de ces vidéos resteront. Mais, par exemple, Johnny Depp, extrêmement violent, insultant sa compagne, tapant dans les meubles de la cuisine... Mais... Et pourtant,
Ça n'a pas frappé les esprits. Après, pour moi, il n'y a pas de vainqueur. C'est ce qui est très triste dans ce procès. C'est à nouveau la guerre des sexes. Ça donne une image absolument terrifiante du couple. Il n'y a aucune politesse entre eux, aucune tendresse. Il n'y a que du mépris, il n'y a que de la haine. On sait tous ce que peut être une vie. Là, il y a une forme de voyeurisme qui est compréhensible, hein, même pour nous. Moi aussi, j'ai lu beaucoup d'articles. On a accès à la vie très intime des stars. Mais je trouve que, quelque part, on en sort tous un peu salis humainement.
Et tu as raison aussi de préciser que c'est un acteur. Quand on voit ces images vidéo, donc c'est vrai que ça provoque quelque chose. Lui, immédiatement, dit oui, effectivement. Alors, j'avoue, j'ai brutalisé des placards. Et il a retourné complètement le... Voilà, l'ensemble du... Mais c'est quand même des conséquences, parce que y a de la société derrière. Ouais. Il y a effectivement MeToo. Alors, les féministes se sont retirées assez rapidement du procès en se disant on ne veut pas plonger derrière Amber Heard parce que ça peut causer du tort. Et puis en même temps, c'est un cas individuel. Ça ne change pas la statistique que 90% des femmes, ce sont elles les victimes de violences conjugales. Qu'il y ait des cas individuels, qu'il y ait des procès. D'ailleurs, je rappelle qu'aujourd'hui, Harvey Weinstein perd en appel. Ça c'est important, hein, ça veut dire que c'était quand même le cœur de MeToo. Donc ça veut dire que tous les procès ne vont pas aujourd'hui dans le même sens aux États-Unis.
Vous vouliez intervenir, Adélaïde?
Moi, je voudrais intervenir, oui, sur deux choses. Un, ça montre encore une fois à quel point cette puissance des réseaux sociaux est quand même terrifiante, et que ce soit sur des questions politiques et la manipulation politique qu'il peut y avoir, ou sur des questions judiciaires où ça devient le terrain de jugement et d'affrontement, je trouve ça terrible, et ça montre à quel point il faut réguler enfin cette sphère qui est absolument pas régulée. Et deuxième chose, là où je vous rejoins et que je trouve assez désespérant, c'est que oui, elle a menti, mais quand on est une femme, pour être une victime, il faut être pure, il faut être parfaite, il faut être limite vierge. Et je trouve que honnêtement, il faut qu'on évolue là-dessus. On peut être une victime et avoir beaucoup de défauts et avoir des excès, avoir des abus, boire, aimer le sexe. Il faut que ça change quand même.
C'est très juste, c'était la mauvaise victime. Alors que lui était parfait malgré aussi tous ses errements passés.
Et il a réagi en disant, voilà, ce verdict, le jury m'a rendu ma vie.
Et peut-être un rôle au cinéma aussi.
Et c'est exactement ça, sa carrière va reprendre en France.
Alors, en France, on est quand même un peu plus tolérant, c'est-à-dire en France, rien n'est jamais si grave que ça. Ce tournage était prévu, donc il va tourner à Versailles, un film en français, c'est son premier film en français d'ailleurs. Il y a une histoire française aussi avec Johnny Depp, où il va jouer, c'est quand même assez amusant, il va jouer Louis XV. Face à Mai Wen, qui sera la favorite.
Jeanne Dubarry.
C'est quelque chose qui était prévu. La grande question, c'est est-ce que sa carrière va redémarrer
à Hollywood.
Il était quand même de toute façon en perte de vitesse. Il a eu plusieurs échecs. Mais en tout cas, il pourra dire qu'il est lavé de quelque chose par la justice.
Mais on a oublié une petite chose, c'est qu'il n'a pas tout... Il a effectivement plus fait de films, mais il a été soutenu par Dior. Les temps changent, parce qu'il y a une époque où quand un homme était juste accusé, il y avait boycott, il n'y avait plus de marque. Dior a quand même une image féministe, ne vend qu'à des femmes, a fait exploser les ventes de son parfum, sauvage quand même. Aucune campagne sur change.org ou etc., aucune campagne de boycott.
Oui, ça laisse songeur. Et vraiment pour conclure, Adélaïde, parce qu'il faut que je libère François Durper.
Non, est-ce qu'ils ont mené leur enquête, Dior, je ne sais pas, mais c'est vrai que...
Ils ont eu des échanges avec Johnny Depp.
Mais je pense qu'ils sont quand même... C'est vrai que tout l'engagement de la marque est sur ce féminisme, donc ce serait très troublant quand même.
Merci beaucoup, François Durper, d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous. Je vous libère, mais je vous garde, Yves.
Ça.
Voilà, jusqu'à la fin de cette émission, aux côtés d'Adélaïde, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Salut, François. Salut.
Bonsoir à toutes et à tous.
Salut Mathieu.
Mathieu, 8 mois après la remise du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église, on en sait un peu plus sur l'indemnisation des victimes.
Oui, c'est la suite du rapport Sauvé, rapport établi par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique. Je vous rappelle simplement les chiffres, 216 000 victimes agressées par des membres du clergé depuis 1950, 330 000 victimes si l'on compte les non-prêtres liés à l'Église, ceux que l'on appelle les laïcs. C'est le ton grave que Jean-Marc Sauvé dévoilait ce rapport à l'automne.
Par leur ampleur, ces nombres, 216 000 et 330 000, sont bien plus que préoccupants. Ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite. Ils appellent des mesures très fortes. Au total, les violences sur mineurs dans l'Église catholique représentent 4% du total des violences sexuelles en France, si l'on prend en compte uniquement celles des clercs et des religieux, et 6% avec les laïcs.
Cette semaine, nous avons donc découvert quelle forme prendraient les réparations financières pour les victimes. Un plafond d'indemnisation à 60 000 euros avec un barème, plusieurs barèmes en réalité, comme celui que vous voyez que nous nous sommes fournis auprès de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Ce barème qui va de l'exhibition sexuelle au premier niveau, au viol, cinquième niveau, et puis enfin au viol multiple, par exemple, pendant plus de 5 ans, au niveau 10. Les manquements de l'Église sont aussi évalués au cas par cas. Les conséquences ensuite, et séquelles sur la santé. Audrey Payas a contacté François Devaux de l'association de victimes La Parole Libérée. Il n'est absolument pas satisfait de cette gradation et de ce barème.
On apprend qu'une personne qui a été violée une fois, c'est 5 points sur 10. Alors, je ne sais pas si ceux qui sont à la tête de ces instances ont bien conscience de ce que c'est que d'être victime de viol. Il suffit d'une fois pour flinguer une vie, pour que c'est des conséquences dramatiques tout au long de sa vie. Là, l'intention, c'est la réparation de l'Église. Vous n'aurez pas la réparation de l'Église sans la réparation totale des victimes. Et la réparation totale des victimes, ça ne se négocie pas à 5 points de viol. Je suis désolé, ça, pour moi, ça ne passera jamais.
Nous avons aussi rencontré Marie Derain de Vaucresson. C'est la présidente de cette instance de reconnaissance et de réparation. Elle s'explique sur leur méthode de travail d'abord. Pour vous faire une idée, une victime de viol peut recevoir 25 000 euros en dommages et intérêts civils en justice classique, j'entends. Là, le plafond, c'est 60 000 euros. Et ces évaluations ont été réalisées en concertation avec les victimes.
L'objectif d'avoir une échelle qui permet d'évaluer la gravité, que ce soit des faits, des manquements ou des conséquences, c'est pas du tout quelque chose qui est mathématique et technique. L'ambition, c'est d'accompagner la personne dans sa globalité. Et c'est en ça aussi que ça ne peut pas être froid. Et puis on l'aborde après quelques semaines d'échanges, souvent, et plusieurs échanges entre les référentes situations et la personne. Et toutes les étapes sont validées et à toutes les étapes sont associées les personnes victimes. Donc on n'est pas du tout sur une cotation où on va mettre des petites croix à côté d'un niveau.
Les victimes ont au moins 3 ans pour se manifester, pour que leur dossier soit instruit. L'instance de reconnaissance et de réparation a déjà reçu 758 demandes de victimes. Les deux tiers, ça c'est intéressant, les deux tiers sont des hommes entre 55 et 70 ans.
Tout autre chose maintenant, une page immobilier. Peut-on se fier au diagnostic de performance énergétique?
Vous connaissez les fameux DPE, vous allez les voir à l'écran, le fameux code de lettres et de couleurs obligatoire pour toute vente ou location immobilière. Un diagnostic qui vous permet de trier les passoires thermiques des logements les plus vertueux, écologiques. Anaïs Recouli et Emo Touré ont interrogé Fanny Guibert de l'association 60 millions de consommateurs qui affirme que ces diagnostics ne sont pas fiables et qui relèvent de nombreux dysfonctionnements.
Les erreurs que nous avons constatées sont essentiellement des erreurs dues au diagnostiqueur. Ça peut être une erreur sur les superficies du logement. On peut avoir 162 alors que normalement c'est 138. Il peut y avoir des erreurs sur l'année de construction de la maison. C'est pareil, on a eu des maisons qui avaient pris 10 ans de plus jeune. On a également des erreurs sur des oublis de fenêtres, des oublis de vasistas sur des toitures, des erreurs sur la surface des parois, sur des planchers qu'on dit isolés, pas isolés, alors qu'en fait on n'en sait rien. On peut avoir une pompe à chaleur qui a été oubliée. On a parfois des ballons d'eau chaude où on n'a pas considérer qu'ils étaient là, une climatisation qui a été oubliée. Donc malheureusement, c'est vraiment des erreurs en pagaille.
Alors si pour l'association 60 millions de consommateurs, les erreurs sont principalement humaines, il existe toutefois des solutions.
Nous, on demande qu'ils passent plus de temps. C'est vrai que ça peut être long, mais il faut y passer du temps. C'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est quand même pas si facile que ça. Et c'est un vrai boulot d'être diagnostiqueur. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'effectivement, le professionnel soit un vrai professionnel bien formé pour intégrer tout ça. D'où notre demande auprès des pouvoirs publics d'améliorer la formation. Donc, les propriétaires ont intérêt déjà à conserver tous les plans et les factures de leurs travaux et à les communiquer au diagnostiqueur. Ça permettra que ce soit plus juste. Et s'ils n'ont pas confiance, il faut se retourner contre le diagnostiqueur et lui dire non, vous avez oublié ça, c'est une grave erreur, refaites-moi un diagnostic.
Et justement, Audrey Payas a pu joindre un représentant des diagnostiqueurs aujourd'hui qui reconnaît, en fait, il confirme qu'il y a un problème d'homogénéité dans les formations.
Nous n'avons pas de filière à la sortie du baccalauréat. Le diagnostic immobilier n'est pas lui-même une filière à part entière éducative. Donc il va falloir que celle devienne, puisqu'aujourd'hui on a une très forte croissance dans nos activités. Nous, on milite pour cette création de cette filière depuis des années. Et on a aujourd'hui des organismes de formation qui dispensent des formations différentes. On lutte contre cette distorsion de formation que l'on a sur certains professionnels par rapport à d'autres.
L'enjeu est de taille. Depuis peu, les locataires peuvent se retourner contre les propriétaires en cas de diagnostic erroné, sans parler du fait qu'à compter de l'été prochain, les loyers seront gelés pour les logements classés F ou G.
Merci pour ce point complet sur les diagnostics en France. Un nouveau secteur qui manque de bras, celui des colonies de vacances.
Attendez pas moi, ma bête. Alors, si les enfants aiment toujours, les animateurs un petit peu moins. Là aussi, on parle d'un secteur éprouvé par 2 ans de crise sanitaire. On a évoqué pas mal de secteurs qui ont du mal à recruter ces dernières semaines. Les colonies n'arrivent plus à recruter. Un exemple parlant, le BAFA. Qui a son BAFA autour de la table? Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, c'est le diplôme indispensable.
Ouais. Pourtant, moi, je ne l'ai pas non plus.
J'ai été éclaireur de France, mais je n'ai pas mon BAFA. Ouais.
54
pour animer une émission, on n'a pas besoin du BAFA.
Non. c'est pas
sinon, on ne serait pas là, Patrick. Hein.
54 800 étaient délivrés en 2016, seulement 31 000 en 2020. Chute vertigineuse, 43 % en quelques années seulement. Louis Amar et Audrey Payas ont interrogé le directeur national des CMA qui forme au BAFA, justement.
Il y a une tendance un petit peu globale depuis plusieurs années à la baisse du départ en nombre de stages d'animateurs, stages BAFA. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une baisse aussi du nombre d'enfants qui partent en séjour collectif, en colo, hein, comme on le dit. Et du coup, on peut imaginer que quelques années après, on ait à la suite de ça une crise des vocations. C'est peut-être, je pense, plus généralement aussi un besoin de reconnaissance de cette fonction-là. Et pourtant, c'est un véritable objet plein de sens dans notre société. Que des jeunes, sur leur temps de loisirs, sur leur temps de vacances, s'engagent dans une première responsabilité à encadrer d'autres jeunes. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est encore très inégalitaire dans notre société aujourd'hui, c'est quand même bien la question des vacances et du départ en vacances.
Est-ce que vous avez déjà programmé un séjour en colo pour vos enfants, directeur, animateur, cuisinier, il manque du monde. Et même si les parents envoient un peu moins leurs enfants aux colonies de vacances ces dernières années, Camille Schmitt et Maud Touré ont rencontré le gérant d'un groupement de colonies. Les effets pourraient se faire ressentir avec des annulations dès cet été.
Là, on est confronté à un problème humain, aussi bien sur les animateurs, les directeurs de séjour, donc qui encadrent les enfants, mais aussi sur une partie logistique. Je parle des cuisiniers, des économes, du personnel qui gère les centres de vacances. Là, on est à peu près à 10% de manque. On est début juin. De directeurs, d'animateurs pour l'été prochain. J'en appelle effectivement au pouvoir public. Peut-être qu'il faudrait assouplir certaines règles pour permettre aussi à des gens intermittents du spectacle, qui ne sont pas obligatoirement diplômés du BAFA, mais qui connaissent le monde de l'enfance, de pouvoir encadrer.
Alors, je voudrais déjà qu'on s'adresse tous aux grands-parents, hein, qui seront sollicités cet été si les colonies de vacances annulent. On peut les remercier parce que c'est une vraie galère si les colonies.
On les remercie s'ils disent oui, hein, ce qui n'est pas gagné. Hein.
Je ne devrais pas rentrer dans le détail. Par ailleurs, tiens, puisqu'on parle des vacances à venir, le Figaro nous apprenait ce matin que nos vacances pourraient être impactées par un manque de personnel, cette fois à l'aéroport. Oh, la reprise de l'activité touristique dépasse les capacités d'accueil. Faute de personnel dans les aéroports, les aéroports pourraient être engorgés.
Ah bah, on manque de monde. C'est le cas ces dernières semaines
déjà. À tous les niveaux. Hein. Pilotes, hôtesse, steward, manutention des bagages, bien sûr. Regardez ces images, justement, ça a déjà commencé. Là, ce sont des images de Manchester, des passagers qui filment depuis l'avion. Faute de personnel pour charger les bagages à temps. Là, ça a l'air tout à fait normal, sauf que c'est le copilote. Ah oui. C'est le copilote qui a enfilé le chasuble jaune, qui porte les bagages pour permettre à l'avion de partir à temps. Et ce n'est qu'un exemple. La réalité, c'est qu'on risque surtout de voir des vols annulés en période de forte affluence touristique.
Une question qui fait débat, c'est quoi être riche ?
Je vous parle d'un rapport ce soir de l'Observatoire des inégalités qui tente de trancher cette question, de fixer des seuils, le rapport sur les riches en France. Question délicate et je vais directement à la réponse. Ce sont des calculs après impôt que vous allez voir. Une personne seule est riche à partir de 3 700 € net mensuels. Cela évolue évidemment selon qu'on est en couple avec ou sans enfants. Pour un couple avec deux enfants, on est riche à partir de 7 713 € mensuels. Selon ce rapport, 7% des Français sont riches, 4,5 millions de Français. En réalité, personne n'est prêt à s'assumer riche. On est toujours le riche ou le pauvre d'un autre. Alors Iban Raïs et Anaïs Recouli sont allés sonder quelques Parisiens cet après-midi sur la question.
Net d'impôts, riche, allez, 5 000 €.
4 000 euros.
10 000.
Je dirais que c'est à partir de 4 000 euros.
À 5 000 euros.
Ok, moi je vous dis 10 000 euros.
Au-dessus de 3 000 euros par mois.
2 500.
Moi je pense qu'on est riche à partir de 10 000-15 000 euros.
Pour bien vivre, pour avoir un bel appartement, pour partir en vacances.
Il y a beaucoup de dépenses en ce moment, plus nous avons beaucoup de factures à payer, plus nous avons des loisirs.
Après, ça dépend des villes où on se trouve. Donc Paris, je pense que c'est quand même beaucoup plus élevé.
3 700. Ou une personne seule net d'impôt, ouais. 3 700, c'est considéré comme riche, ouais.
Avec la vie qui coûte cher comme ça,
je suis choquée là.
Alors, il y a les riches en revenus, il ne faut pas oublier le patrimoine non plus, qui permet à l'Observatoire des inégalités d'essayer de dresser un portrait robot des riches en France, les riches qui seraient le plus souvent des Français parisiens ou des Hauts-de-Seine, à l'ouest de Paris. L'âge moyen est de 57 ans, ils sont très majoritairement propriétaires et surreprésentés, nous dit-on, chez les cadres supérieurs.
Un commentaire autour de cette table.
Il y a un abus sur le mot riche. Mmh. Riche, c'est être fortuné, avoir un patrimoine, etc. C'était qui, Rockefeller?
François Hollande.
Rothschild qui disait être riche, c'est vivre des intérêts de son patrimoine, de sa fortune.
Ah oui. Oui,
c'est François Hollande qui fixait à 4 000 euros. On n'est pas loin
c'est ça,
de ce que dit l'Observatoire.
Celui-là,
on est à 3 700 net d'impôts. Ouais.
Il avait été extrêmement critiqué.
Moi, je suis très surpris par ce terme de riche, avec un salaire de 3 700 €, en tout cas à Paris. Tout le monde ne peut pas aller vivre en région. Et non, moi, j'estime qu'être riche, c'est ne pas avoir à penser à ses fins de mois. Exactement. Et à ses vacances d'été.
Exactement.
Mais c'est une question relative, c'est pour ça que le micro-trottoir...
Non, mais peut-être que le terme aurait dû être différent, en fait.
C'est le choix de...
C'est la qualification, là, qui est à changer.
On peut comprendre par rapport à la moitié des Français qui ne sont pas imposables, parce que, pour le coup, ils sont pauvres. Des pauvres, il y en a énormément, ça c'est vrai. Des riches, il y en a peut-être moins que ce que laisse entendre cette étude.
La reine d'Angleterre est riche.
La reine d'Angleterre est riche, oui, ça, voilà. Clairement, on n'est pas du tout dans les mêmes zones.
Voilà,
Mike Taylor aussi.
Your Taylor is very
rich. Tout ça pour ça, pour arriver à Mike Taylor is rich. Et si on changeait l'avoine de GPS?
Oui, alors c'est l'application GPS Way, ça leur fait un peu de pub.
Ils
proposent désormais d'être guidés par de nouvelles voix, non plus la voix sans aspérité extrêmement neutre du GPS classique, mais des voix avec accent désormais, l'accent marseillais, toulousain et l'accent ch'ti. Alors, j'ai juste demandé à Camille Schmitt et Emo Touré de la rédaction de C'est à vous de prendre une voiture et d'aller faire un tour.
Prêt, collègue? Allez où alors?
Bon vin et bonne route, hein.
Bon, sois pas branquignol, hein. Fais attention.
Dans 200 mètres, tourne à droite. Et après, tourne à gauche.
Tourne à gauche. Chilo, à dessin d'Olgaret Tertus.
Alors,
c'est chouette.
On sent bien les clichés, ils sont assumés, ça égaye sans doute un peu les bouchons. L'accent marseillais, toulousain et ch'ti ont été choisis par un vote des utilisateurs. L'application n'exclut pas d'en proposer de nouveaux.
Les Belges, l'accent belge.
Nous les avons aidés. Quel accent aimeriez-vous pour vous guider au volant?
Alors, on va faire quoi d'autre comme accent? Parce qu'il faut être, qui en est pour tout le monde. Hein. Alors, je sais pas, la liste peut être très longue, on peut aller très loin comme ça.
Pour vous, faudrait que la liste soit plus longue?
Oui, vous avez les Bretons, vous avez l'Est.
Ça peut être sympa pour apporter un peu de diversité, parce que souvent, en France, on est vraiment centré sur Paris.
Dans les régions, les gens vont être très contents, ils vont être fiers.
Vous avez testé donc?
Ouais, notamment la Provençale, la Mireille. Je pense qu'on l'a assez rapidement switché, parce que bon... Il fallait rester concentré sur la route.
Quand on a un accent de Marseille, on peut penser un peu à la plage, au soleil, voilà tout ça.
Oui, c'est rigolo, mais il n'y a toujours pas l'accent belge qui est dedans.
Pour info, vous venez d'où?
On vient de Bruxelles.
Ah ben voilà.
L'application avait déjà proposé des voies alternatives comme celle-ci, vous la reconnaissez?
Tout est prêt, allons user de la gomme. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Nous sommes prêts à rouler.
C'est une bonne suggestion.
C'est rigolo de changer.
C'est rigolo. Merci beaucoup Mathieu Béliard. Merci Yves Jéglé. On guette avec impatience votre prochain papier dans Le Parisien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que deux numéros de Point de vue sont disponibles en kiosque. Le numéro de cette semaine avec les 70 ans de règne, les moments qui ont marqué le règne d'Elisabeth II, et puis un hors-série de souveraines de légende. Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre d'être venue ce soir. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous, un dîner champagne ce soir. On vous attend.